إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Le sujet de cette rencontre est la purification de l'âme, ce qu'on appelle en arabe tazkiyatu an-nufus ou bien tazkiyatu an-nafs. Le titre est composé de deux termes: la purification et l'âme. At-tazkiyah wa an-nafs. Tazkiyatu an-nafs, la purification de l'âme. Et je préfère commencer par la définition de ces deux termes, notamment le deuxième, an-nafs, qui est le sujet de cette rencontre. Allah subhanahu wa ta'ala a cité le terme an-nafs dans le Coran al-Karim, dans des dizaines, je dis bien des dizaines de versets, dans plusieurs sourates, dans des états différents, avec des caractéristiques différentes, dans des sujets différents, comme on va le voir au cours de ce discours, incha'Allah ta'ala. An-nafs, qui est la chose la plus importante dans l'être humain, et qui est plus importante que le corps, qui est fait en chair et en os. C'est nefs qui donne la valeur à l'être humain. Et quand on regarde dans la vie d'aujourd'hui, on voit que beaucoup de gens s'intéressent à entretenir le corps, le physique. Ils oublient d'entretenir la chose qui est la plus importante, qui est l'âme, nefs. يا خادم الجسم كم تسعى لخدمته أتعبت نفسك فيما فيه خسران أقبل على النفس واستكمل فضائلها فأنت بالنفس لا بالجسم إنسان. Donc ce poète dit que il s'adresse à quelqu'un qui passe beaucoup d'heures à entretenir son physique, à regarder dans le miroir, à aller peut-être faire beaucoup de sport pour entretenir le physique. Et en même temps, il oublie que ce physique, un jour, disparaîtra dans la tombe, se décomposera dans la tombe. Il a oublié de compléter les vertus de la chose la plus importante qui est un nefs. Car c'est par cette âme que tu es considéré un être humain, une sainte. Allah Azza wa Jal parle de l'âme dans le Coran al-Karim, et comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on parle aussi dans ces hadiths. Et Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah et d'autres savants ont donné les différents sens de an-nafs. Que veut dire le mot an-nafs? Eh bien, des fois, le terme an-nafs veut dire le sang. Veut dire le sang. Et c'est pas le terme voulu dans cette conférence, dans ce discours. Vous entendez des fois parler de nefs, qui veut dire le sang. Et de là, on comprend la parole des savants de l'fiqh, notamment, les jurisconsultes quand ils disent de certaines bêtes, de certains insectes qui n'ont pas de nefs, ça veut dire ils n'ont pas de sang qui coule, ils n'ont pas de sang, comme les escargots, etc., et certains insectes. Eh bien là, un nefs n'a rien à voir avec le sujet dont on parle aujourd'hui. Un nefs de laquelle on parle aujourd'hui, c'est celle qui veut dire l'âme, ar-ruh. Un nefs, elle veut dire l'âme, ar-ruh. Deux fois dans le Coran, on trouve le terme un nefs. D'autres fois, on trouve ar-ruh. En général, elles ont la même signification. Un nefs et ar-ruh ont la même signification. L'âme. L'âme qui habite le corps pour une durée déterminée par Allah Azza wa Jal et qui a un début et une fin. Un début, c'est la création de toute chose qui a un début. Allah Azza wa Jal, comme dit Allah dans le Coran al-Karim, Allahu khaliqu kulli shay. Allah Azza wa Jal est le créateur de toute chose. Parmi ces toutes choses, il y a l'âme, ar-ruh, an-nafs, qui a un début. Elle a aussi une fin. Eh bien, à retenir que l'âme, c'est en même temps an-nafs, et c'est en même temps ar-ruh. Il n'y a pas de différence, en général, entre les deux termes. Mais, souvent, comme a fait la remarque un grand savant qui a interprété le livre de l'Aqida, qu'on appelle l'Aqida Tahawiyya, il a dit que le terme ar-ruh, on l'utilise quand l'âme quitte. Quand l'âme aura quitté le corps, on parle de ar-ruh, le terme ar-ruh. Mais quand elle est encore dans le corps, les deux, on parle de nefs. Quand elle est dans le corps, on parle de nefs. Quand elle quitte le corps, on parle de ruh. Mais les deux termes, ar-ruh et nefs, veulent dire la même chose. Ça, bien sûr, en général. Alors, la purification de l'âme, tazkiyat an-nafs. Ça veut dire que cette âme a besoin d'être purifiée. Purifiée car, dans cette vie, elle est exposée à beaucoup de facteurs et à des souillures, des impuretés, telles que al-shirk, telles que al-ma'asi, les péchés, telles que les innovations, al-bida', etc., etc. Alors cette âme a besoin, tout le temps, à chaque instant, à chaque minute, à chaque jour, d'être purifiée pour qu'elle puisse rencontrer Allah Azza wa Jal yawm al-qiyama dans un état de pureté et qu'elle puisse vivre dans ce monde et à un niveau qui est comparable à celui des anges. Et à l'occasion de Ramadan, on sait très bien que un musulman lui est obligé de boire et d'avoir des rapports, etc. pendant la journée de Ramadan. Et cette manière de se comporter dans la journée de Ramadan, c'est une de réciter Sourate al-Baqarah pour voir comment l'âme puisse s'élever et atteindre un degré où elle peut rencontrer même al-Mala'ika. Usayd ibn Fudayr, radiyallahu anhu, en train de lire Sourate al-Baqarah, avait son fils qui était très très jeune et qui était endormi tout près d'un cheval chez lui à la maison. Et chaque fois qu'il récitait al-Qur'an al-Karim, Sourate al-Baqarah, le cheval faisait des gestes très très forts et bougeait très très fort. Alors, le père coupait la récitation du Coran de peur que le cheval écrase son fils qui était endormi à côté. Alors, quand le cheval se calme, Usayd ibn Fudayr continua la récitation du Coran. Et le cheval commença une deuxième fois à bouger fortement. Alors, il coupe de nouveau la récitation. Et à la fin, il a vu, radiyallahu anhu, comme une sorte de nuage avec de la lumière qui s'élève dans le ciel et qui remonte dans le ciel. Il a été raconté ça au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète lui dit que ce que tu viens de voir, ce sont des anges qui sont venus écouter la récitation du Coran al-Karim. Regardez comment ce musulman, qui est un parmi les musulmans, et par cette pureté de l'âme, de nefs, et cette purification de nefs, et d'être concentré avec humilité dans la récitation du Coran, et de penser, de réfléchir au verset du Coran al-Karim, à ce qu'on lit, et de penser aussi à celui qui a révélé le Coran al-Karim, à la grandeur de celui qui a révélé le Coran al-Karim, eh bien, ce compagnon a pu voir le malaïka pendant cette nuit-là, et même le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit que si tu avais continué à réciter le Coran, eh bien, le lendemain matin, tu aurais vu les anges dans les rues et les gens les auraient vus tous comme ça, face à face. À tel point qu'il est arrivé par cette purification de l'âme. C'est ce qui est tout, un nefs. Allah Azza wa Jal nous a ordonné dans le Coran al-Karim de purifier l'âme. Il nous a donné aussi des flashs un peu partout pour nous rappeler l'importance de tazkiyat al-nafs. Et à cette occasion, je rappelle que le chemin de la réussite, le chemin de celui qui cherche la réussite dans ce monde et dans l'au-delà, tariq al-najah wal-falah, c'est la purification de l'âme. En répondant à la question, pourquoi parler de la purification de l'âme? Eh bien, on parle de la purification de l'âme parce que nous avons besoin de cette purification. Nous avons besoin de purifier nos âmes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam rapporte dans un texte authentique que le musulman qui accomplit un seul péché, il y a un point noir qui se marque dans son cœur. Car le cœur, à l'origine, est comme un miroir clair. Et Allah Azza wa Jal nous a créé tout à fait au départ avec la fitra, ce qu'on appelle al-fitra, la nature première de chaque être humain, et qui est la voie droite de l'islam. Allah nous a créé dans un état de fitra. Le cœur est comme un miroir qui est clair et pur. Et chaque fois que tu commets un péché, il y a un point noir qui se marque, il se marque sur ce miroir. Si tu fais un repentir sincère, une tauba, Allah efface ce point noir. Et le cœur redevient, et aussi l'âme redevient claire et pure comme il était. Mais si tu ne fais pas de tauba, eh bien, point après point après point, un jour tu arriveras jusqu'à couvrir cette âme, à mettre entre cette âme et la vérité un obstacle, mettre entre toi, entre ton âme et la lumière d'Allah Azza wa Jal, un obstacle. C'est pour cela qu'Allah Azza wa Jal, quand il parle dans le Coran al-Karim, dans une sourate que nous récitons chaque jour, au moins 17 fois dans les prières obligatoires, sourate al-Fatiha. Ihdina al-sirat al-mustaqim, sirat al-ladhina an'amta alayhim, ghayri al-maghdubi alayhim wa al-dallin. Tu demandes au Seigneur de te mettre parmi ceux qu'il a accomplés par ses bienfaits, et non pas ceux qui ont encore eu la colère d'Allah Azza wa Jal, qui sont les juifs, ni ceux qui sont égarés, les chrétiens. Eh bien, Allah Azza wa Jalla parle des gens qui sont égarés. Quelqu'un qui est égaré, ça veut dire que même si la vérité, le chemin droit, la vérité étant juste à côté de lui, tout près de lui, il ne la voit pas. Il est égaré, il est perdu. Car il y a un obstacle entre lui et la vérité et la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala. Abu Talib, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, savait-il que le prophète était sur le droit chemin, sur la vérité? Naam, il le savait, il était certain que le prophète était sur la droiture et sur la vérité et la lumière. Mais pourquoi ne l'a pas suivi? Pourquoi n'a pas adopté, n'a pas embrassé l'islam? Pourquoi il est mort mécréant? Eh bien parce que entre lui et la vérité, il y avait cet obstacle. Alors chacun de nous, qui fait un jour un péché, ou bien plusieurs péchés, eh bien, son âme se couvre de plus en plus par un certain obstacle qui l'empêche de voir al-haq, de voir la lumière, et ensuite d'être guidé vers le droit chemin. Qui parmi nous ne commet pas de péché? Que ce soit par la parole, en commettant des péchés par la parole, riba, النميمه, la médisance, la calomnie, le mensonge, le faux témoignage, les insultes, les mauvaises paroles, par le regard dans les rues, à la TV, les revues, les livres, les romans, etc., etc. Par même les mains, les pieds, de marcher à aller à un endroit où il y a le haram, où il y a l'illicite. Tu vas vers le péché, les mains qui touchent en commettant un péché, les oreilles qui écoutent ce qui est interdit d'écouter. Et Allah Azza wa Jal interrogera yawm al-qiyama les membres des gens qui nient d'avoir fait ces péchés. Et bien Allah Azza wa Jal va sceller la bouche de cela et demander les réponses aux membres de cet être humain qui a nié avoir, devant le Créateur, avoir commis ces péchés. Commettre des péchés, ça veut dire mettre entre ton âme et la lumière d'Allah Azza wa Jal un obstacle. Aussi, refuser les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala et du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est mettre entre toi et la vérité un obstacle. Entre ton âme et la vérité, un obstacle. Tu commets les péchés soit en commettant l'interdit, ou bien en t'abstenant de faire les ordres et les obligations et les prescriptions d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans les deux cas, tu es dans le péché. Alors tu as besoin d'effacer ces péchés. Tu as besoin de retirer cette poussière sur ton âme et de nettoyer, de purifier ton âme pour qu'elle voit clair la vérité, qu'elle voit clair le Coran, qu'elle voit clair la Sunna, qu'elle voit clair la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et plus tu as cette lumière, plus tu seras plus haut dans le degré parmi les pieux, parmi les vertueux, as-salihin, al-mu'minin. Et en se référant à un hadith dont certainement beaucoup de frères ont déjà entendu parler, c'est le hadith de Jibril. Hadith de Jibril, alayhi salam, quand il est venu chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dire « Ya Muhammad, akhbirni ani l'islam, dis-moi c'est quoi l'islam ?» Le prophète dit « L'islam, an tashhada an la ilaha illallah » وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. Il lui a cité les cinq piliers de l'islam, l'attestation de foi, accomplir la prière, l'aumône, le zaka, le jeûne et le pèlerinage pour celui qui en a les moyens. Il lui dit, صدقت, tu as dit la vérité. فأخبرني عن الإيمان. Il passa au deuxième degré en disant, alors parle-moi de l'iman, de la foi. Le prophète lui récite les sept piliers de la foi. Croire en Dieu, en ses anges, en ses prophètes et messagers, en ses livres, au jugement dernier, et au destin. Et au troisième degré, il lui posa la question, « Akhbirni anil ihsan ?» C'est quoi l'ihsan, la perfection? Alors là, le prophète, ou bien le messager, Jibril alayhi salam, quand le prophète s'est mis, lui a dit, « Al-ihsan an ta'bud Allah ka'annaka tarah, fa'in lam takun tarahu, fa'innahu yarak. » La perfection, qui est le sommet de l'adoration, c'est d'adorer Allah Azza wa Jal comme si tu le voyais, à chaque geste, à chaque parole, à chaque mouvement. Et si tu ne le vois pas, sache que lui, il te voit. Il y a un cheminement dans la foi, dans l'iman. À partir des simples gestes extérieurs, la prière, le jeûne, etc., c'est des mouvements physiques qu'on voit. Et puis, l'iman, il y a une conviction qui devient de plus en plus forte, la foi, qui est un moteur. Et ensuite, on arrive au sommet qui est al-ihsan. C'est d'être sûr et certain que à chaque chose que tu fais, Allah Azza wa Jal te voit. Il t'observe, alors tu fais attention avant de faire quoi que ce soit. Alors l'âme, plus elle devient pure, plus elle avance vers al-ihsan pour atteindre le meilleur degré dans l'adoration. Plus tu avances vers l'ihsan, ton âme devient purifiée, elle devient claire, elle reçoit la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors nous avons besoin de cette purification. Et Allah dans le Coran al-Karim a juré par nafs. Il a juré par nafs. Après qu'il a juré par le soleil, « وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ وَمَا تَلَاهَا » Il a juré « وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا » Il a juré par la lune et والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها. Il a juré par des choses qui sont très très importantes. Et Allah subhanahu wa ta'ala ne jure que par ce qui est important, ce qui a une grande valeur. il a le droit, subhanahu wa ta'ala, de jurer par ce qu'il veut, par la lune, par le temps, wal-asr, par le soleil, par le Coran, par tout ce qu'il veut, subhanahu wa ta'ala. Eh bien, après, il a juré par l'âme. Par l'âme, il jure par l'âme, wa nafsin, wa ma sawaha, il jure par l'âme et par celui qu'il a harmonieusement façonné, qui est Allah subhanahu wa ta'ala. فألهمها فجورها وتقواها الله lui a inspiré la l'immoralité et la piété, les deux chemins. Et comme dit Ibn Abbas, en expliquant, en interprétant ce verset, que Allah a clarifié, a montré les deux chemins à l'âme, le chemin de la vérité et le chemin du mal, le mensonge et la vérité, le mal et le bien. Allah Azza wa Jalla nous a montré, il a montré à l'âme les deux chemins. Le chemin du paradis et le chemin de l'enfer. Ce qui est autorisé, ce qui est interdit, ce qui est permis, ce qui est prescrit, etc. Tout ce qui est mal et tout ce qui est mauvais. C'est la mission du prophète en fait, de nous montrer le bien et de nous montrer le mal pour l'éviter. Eh bien Allah Azza wa Jal a montré à l'âme le bien et le mal. فَأَلْهَنَهَا Il lui a inspiré le bien et le mal. فُجُورَهَا وَتَقْوَهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا A réussi celui qu'il a purifié. Allah parle de la purification après qu'il a juré par l'âme. Qad aflaha, il a réussi celui qui a purifié son âme. Et comme j'ai dit au début, la purification de l'âme, c'est le chemin de la réussite. Dans ce monde et dans l'au-delà. Dans ce monde parce que tu seras guidé par Allah Azza wa Jal, par la révélation, et tu auras la paix, la tranquillité. Aujourd'hui, un des grands fléaux de ces sociétés modernes et des maladies, on souffre du stress et de l'angoisse. Tout le monde souffre du stress et de l'angoisse. Eh bien, l'âme, quand elle est sur la voie de l'islam, elle a la foi, cette âme qui est purifiée, elle acquiert le calme, la tranquillité, l'apaisement. Allah il dit, « قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّهَا » Et c'est Allah qui parle. Celui qui a purifié son âme, il aura réussi. Dans les deux mondes. Et يَوْمَ الْقِيَامَةِ il aura gagné le paradis. Incha'Allah Azza wa Jal. وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّهَا Et celui qui a sali cette âme, eh bien, il est dans la perdition. Il est dans la perdition. C'est quelqu'un qui a perdu ce monde et le delà. Celui qui a sali son âme par les péchés, par le ma'fiyya, par le shirk, par le bid'ah. Celui qui fait ce genre de mauvaises actions, il salit de plus en plus son âme. Et cette âme, eh bien, elle sera perdue يَوْمَ الْقِيَامَةِ chez Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nous appelle à purifier cette âme en disant dans le Coran al-Karim, Ya ayyuha alladhina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat li ghad. Craignez Allah. Il nous appelle par un titre qui est aimé. Il est aimé chez tout le monde, chez tous les musulmans. Tu aimes que quelqu'un te dit dans la rue quand il te rencontre, il te dit, écoute, mon frère croyant. Il t'appelle par ce titre croyant. Si quelqu'un te dit, Ya mu'min, tu seras content. Tu seras content, tu dis, Alhamdulillah. Que les gens croient que j'ai beaucoup de l'iman, qu'ils m'appellent par ce grade qui est très très haut, par ce titre qui est très très important. Eh bien, Allah Azza wa Jalla, c'est lui qui t'appelle par ce titre. Ya ayyuha alladhina amanu. Ô croyants, ô vous qui avez cru. Alors, quand tu écoutes, tu entends cette parole, c'est comme faisaient les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils te disent, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand tu entends Allah dire, ô vous qui avez cru, sache, écoute très très bien. Prépare-toi pour écouter la parole d'Allah. Et sache que derrière cette parole, Ya ayyuha alladhina amanu, il y a une interdiction du mal ou bien c'est un bien que Allah t'ordonnera. Sache qu'il y a un mal que Allah t'interdira ou bien un bien que Allah t'ordonnera. Alors écoute très très bien ce qu'il dit. Allah il dit, Ya ayyuha alladhina amanu, taqullah, craignez Allah. Wal tanzur nafsun ma qaddamat li ghad. Et que chaque âme, chaque personne, regarde ce qu'il a préparé pour demain. Demain, c'est-à-dire, يوم القيامة. Regarde ce que tu as préparé. Regarde ton âme, ce qu'il a préparé. Est-ce qu'il a préparé une piété, une foi, des bonnes actions pour rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala? Ou bien c'est le contraire? Car, si c'est le contraire, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ Si tu es de l'autre côté, de ceux qui ont oublié l'au-delà, oublié demain, يوم القيامة, ils ont oublié leur âme, subhanallah, ils ont oublié Allah Azza wa Jal. si tu oublies Allah, tu es occupé, préoccupé par beaucoup de choses dans cette vie. Peut-être par l'argent, par le travail, par les études, par, mais tu as oublié Allah subhanahu wa ta'ala. Comme disent certains, quand j'aurai 60 ans, inshallah, je vais faire tawbah. Quand j'aurai 40 ans, je vais commencer la prière. Et quand je vais marier, je vais porter le hijab. Et quand j'aurai 65 ans et 4 mois, je vais aller à l'hajj au pèlerinage. On laisse toujours pour après, pour après, pour après, et soudain, la mort qui intervient pour couper cet espoir, un faux espoir. Allah il dit, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهِ. Ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah. فَأَنْسَهُمْ أَنْفُسَهُمْ. Alors à ce moment-là, si tu oublies Allah subhanahu wa ta'ala, Allah va te faire oublier ta propre personne et ta propre âme. Tu vas oublier ton âme. Comment est-ce possible d'oublier sa propre personne et son propre âme? Eh bien, tu vas être dans la perdition. Comme disent certains frères, ils disent, je ne sais pas ce que je fais. Et je ne sais pas pourquoi j'ai fait cette bêtise. Je ne sais pas pourquoi j'ai fumé. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait de la drogue. Je ne sais pas pourquoi je suis sorti avec cette femme. Je ne sais pas pourquoi j'ai insulté mes parents. Je ne sais pas pourquoi que je fais ceci et cela. Je ne sais pas pourquoi je mange pendant la journée de Ramadan. Je ne sais pas, je ne sais pas. Il ne sait pas. Pourquoi? Parce que Allah lui a fait oublier sa propre personne et son propre âme. Pourquoi? Parce que lui, il a oublié Allah subhanahu wa ta'ala. Et de là, on comprend l'utilité et l'importance de la purification de l'âme. L'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, dit, قَدْ أَفْلَحَ, en interprétant le verset du Coran al-Karim, a réussi celui qui a purifié l'âme et est perdu certes celui qui la corrompt. Il dit Ibn al-Qayyim, قَدْ أَفْلَحَ مَنْ كَبَّرَهَا. Remarquez le terme du zakkah. Et ceci, ça nous donne une image plus claire du terme la purification en arabe. C'est un terme arabe, c'est un terme coranique et c'est un terme prophétique. Al-tazkiyah, la purification al-tazkiyah en arabe, il veut dire la bénédiction, al-baraka. Il veut dire aussi la purification, al-tahara. Il veut dire aussi l'augmentation, al-nama, al-ziyada. Et de là, on a tiré le terme le monde. Comment on l'appelle en arabe? Al-zaka, car le monde que tu donnes est un moyen pour purifier ton argent de quelques francs ou bien milliers de francs de l'haram. Peut-être qu'ils se sont mélangés avec ton argent, peut-être même inconsciemment, et de purifier ton âme de l'avarice, de l'égoïsme. Al-ananiya, al-afara, al-bukhl. Purifier ton âme par le monde, par al-zaka. Allah il dit dans surat al-tawbah, le repentir, en parlant au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, khud min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Prends sur leur bien, sur le bien du musulman, une zakat. Sadaqa ici, elle veut dire zakat, pour les purifier. Purifier l'argent et purifier l'âme. Le terme zakat, c'est une purification, une bénédiction, une augmentation. Alors, si tu as purifié ton âme, eh bien, tu auras augmenté l'importance, la valeur de cette âme, l'augmentation. Et la foi de cette âme. Et tu seras béni par Allah Azza wa Jal. Allah il te donnera al-baraka dans tes biens, ta santé, tes enfants, ta famille, le temps. Aujourd'hui on dit que la journée passe comme une seconde. Et ceci est un signe de la fin des temps, comme a cité le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans plusieurs textes authentiques. Taqaroubu zaman, le fait qu'on considère aujourd'hui que le temps, l'année passe comme un mois, le mois comme une semaine, la semaine comme un jour, le jour comme une heure, l'heure comme une seconde, passe très vite. C'est un manque de l'baraka. Il n'y a pas de bénédiction dans le temps. Et si tu as purifié ton âme, Allah il te donne, qui est une signification du terme zakat, il te donne l'augmentation de la foi, l'augmentation de cette lumière, l'augmentation de la valeur, et il te donne aussi la bénédiction, le baraka, la multiplication du hasanat. Il te donne aussi le terme, la purification. Tu vois clairement, tu vois le bien et le mal. Tu seras faire la différence entre le bien et le mal. Tu auras cette lumière dont parle le Coran al-Karim. Le Coran il dit Al-Furqan, yaj'al lahu nuran. Dans un autre verset, Furqan, une lumière qui fait la différence, la distinction entre le bien et le mal. Même des fois, celui qui a cette purification de l'âme, cette âme qui est pure, même des fois quand il est en face d'une chose dont il ne sait pas si elle est bien ou mal, eh bien Allah le guide. Allah le guide. Car à ce moment-là, on peut parler du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit « Ishtafi qalbak ». Demande la consultation à ton cœur, consulte ton cœur. Regarde où ton cœur te guidera. « Ishtafi qalbak ». Dans ce cas, le prophète sallallahu parle d'un cœur, bien sûr, d'une âme, certainement, d'une âme qui est purifiée et qui voit clair. Alors là, cette âme qui est purifiée, elle peut faire la distinction entre le bien et le mal. Même dans les cas où il y a le doute, eh bien, tu sens l'angoisse et tu te sens mal à l'aise, comme s'il y a quelque chose qui te dit, laisse tomber, n'avance pas, ne fais pas ces choses-là, ne mange pas ces choses-là, même si tu ne sais pas si elle est bien haut ou bien mal. Mais c'est ton âme qui te guide à ce moment-là, parce que tu as une âme purifiée. Mais si l'âme, elle est pleine de poussière, pleine de péché, pleine d'ignorance, pleine d'innovation, alors à ce moment-là, on ne peut pas dire ishtafi qalbak, consulte ton cœur. Car à ce moment-là, ton cœur, il va te guider, non pas vers la vérité, mais vers al-hawa, la passion. Ce qui t'arrange, ce qui te convient, même si il est contre la religion. Le cœur qu'on insulte, l'âme qu'on insulte, c'est l'âme qui est purifiée. Alors, Imam Ibn al-Qayyim, il dit, « قَدْ أَفْلَحَ مَنْ كَبَّرَهَا وَكَسْفَرَهَا وَنَمَّهَا » Il cite les trois sens, les trois significations du terme purification al-zakah. « بِطَاعَةِ اللَّهِ وَخَابَ مَنْ صَغَّرَهَا وَحَقَّرَهَا بِمَعَاصِ اللَّهِ » Et celui qui est dans la perdition, c'est celui qui a rendu son âme très très petite. Très très petite. Non pas de taille, mais de valeur. À cause de quoi? À cause de l'ma'afi, à cause des péchés. Le deuxième point pour lequel on parle de la purification, et on doit parler de la purification de l'âme, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est le modèle parfait à suivre, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Le prophète qui est parfait, infaillible, il demanda à Allah Azza wa Jal de donner à son âme cette purification. Il demande à Allah subhanahu wa ta'ala à maintes reprises de purifier son âme. Et les compagnons, comme rapporte Zayd ibn Arqam, radiyallahu anhu, ils enseignaient ce dua, cette invocation que récitait le prophète sallam. Souvent, ses compagnons l'ont enseigné à leurs enfants et aux générations suivantes. Le prophète sallam disait dans un hadith rapporté par Muslim, al-Nasa'i Imam Ahmed, Allahumma inni a'udhu bika min al-'ajz wal-kasal. Ô mon Seigneur, préserve-moi de l'incapacité, c'est-à-dire de dire, non, je ne suis pas capable. Tu dis à quelqu'un, va apprendre, apprends ta religion. Wallah, je ne suis pas capable, je ne peux pas. Tu lui dis, viens faire la prière. Wallah, je ne suis pas capable, je ne suis pas prêt, etc. Il souffre de l'incapacité. Le prophète demandait à Allah Azza wa Jal de le préserver de cette incapacité. De dire, je suis incapable de faire, incapable de dire, incapable. Je serai incapable d'accomplir la prière, je serai incapable de faire le jeûne, je serai incapable, sans même essayer. Al-'ajz wal-kasal, et aussi de le préserver de la paresse. La paresse. Wal-jubni wal-bukhl. Al-jubni, c'est un peureux, quelqu'un qui a toujours peur. Al-bukhl, l'avarice. Al-haram, la vieillesse. La vieillesse. Le prophète demanda à Allah subhanahu wa ta'ala de le préserver de la vieillesse. Car souvent, quand on devient très très âgé, très très vieux, on devient comme, je ne dis pas comme un bébé, mais pire qu'un bébé. Car le bébé, même s'il fait des bêtises, à un âge où il est très très jeune, eh bien, on l'accepte et même on sourit et on aime le voir, même s'il fait des choses insensées, inutiles. Mais quand on devient très très vieux, à ce moment-là, même ses propres enfants, peut-être ils souhaiteront que tu seras mort bientôt dans le délai le plus rapide, comme ça, ils ne vont pas souffrir avec toi, en t'aidant à faire même sa toilette, etc. etc. Le prophète demande à Allah Azza wa Jalla aussi de le préserver de l'adab al-qab, le châtiment de la tombe, l'épreuve de l'antichrist, fitnat al-dajjal. Alors il dit, Allahumma ati nafsi taqwaha, wa zakkiha anta khayru man zakkaha, anta waliyuha wa mawlaha. C'est un dua qui est très très important. Le prophète dit, Allahumma ati nafsi taqwaha, accorde à mon âme sa piété. وَزَكِّهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّهَا. Et purifie mon âme, car tu es le meilleur qui purifie les âmes. أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلَهَا. Tu es le Seigneur de cette âme, le plus proche de cette âme. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam demande à Allah azza wa jal de purifier son âme, alors qu'Allah lui a pardonné tout, le passé et le futur, que dire des musulmans et que dire de nous qui vivons à cette époque où on commet beaucoup de péchés? Nous n'avons pas besoin qu'Allah azza wa jal purifie les âmes, nos âmes. Certainement, la réponse est affirmative. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait aussi « Allahumma inni a'udhu bika min ilmin la yanfa'. » Préserve-moi d'une science inutile. Aujourd'hui, il y a beaucoup de sciences qui sont inutiles. Et on donne le terme, on dit que ça c'est une science. Peut-être la science, la musique est devenue aujourd'hui une science. Il faut apprendre beaucoup de choses pour apprendre la musique. Peut-être l'informatique pour apprendre la musique par l'ordinateur. Et il est devenu une science, un art mais une science, entre parenthèses. On donne des noms qu'il ne faut pas à ces choses-là. Ilmi la yanfa, une science qui n'a aucune importance. Au contraire, elle n'a que du mal. Wa min qalbin la yakhsha, il y a un cœur, préserve-moi d'un cœur, d'avoir un cœur qui n'a pas l'humilité, qui n'a pas le khushu à l'humilité, ni dans la prière, ni en dehors de la prière, ni à l'écoute du Qur'an al-Karim. Wa min nafsin la tashba, et préserve-moi d'une âme. Il parle de l'âme, la tashba, qui n'a jamais assez. Elle veut toujours avoir plus. Mais malheureusement, elle veut toujours avoir plus dans le domaine de dunya, non pas dans le domaine de la religion. Elle veut avoir toujours plus d'argent, plus de biens, plus de maisons, plus de voitures, plus, etc. Mais dans le domaine de la religion, c'est le contraire. Peut-être qu'il est le dernier dans le domaine de la religion, mais dans le domaine de dunya, l'âme a toujours faim. Elle veut toujours avoir plus. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam demande à Allah azza wa jal de le préserver de cette âme, « wa min nafsin la tashba' » qui n'a jamais assez. Et aussi, la parole de Abu Darda, qui le montre, radiyallahu anhu, qui est un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait que mon corps, le corps physique, ce n'est qu'une monture pour l'âme. Matiya. L'âme, al-nafs, c'est elle qui est importante, plus importante. Le corps est une monture. Est une monture. Eh bien, il dit, j'entretiens la monture pour qu'elle puisse aboutir à la destination et qu'elle puisse amener mon âme à sa destination. Donc le corps n'est qu'un moyen pour l'âme. C'est un moyen pour porter l'âme. C'est une monture pour l'âme, comme disait Abu Darda radiyallahu anhu. Mais si on fait l'inverse, c'est l'âme qui devient une monture pour le corps. Alors à ce moment-là, eh bien, tous les efforts vont se diriger vers le physique et oublier la chose qui est plus importante que le physique, l'âme, al-nafs. Mais j'ouvre les parenthèses. Il ne faut pas comprendre de là que l'islam néglige le physique. Au contraire, l'islam c'est la seule religion, c'est la seule religion qui garde l'équilibre entre ce monde ici-bas et le delà. Qui garde l'équilibre entre le physique et l'âme, entre le corps et l'âme. L'islam, il te donne le choix, il te donne aussi des recommandations pour profiter de cette vie dans le bien et dans le licite, sans oublier le delà. C'est-à-dire utiliser ad-dunya, tous les biens de dunya, les utiliser pour le delà, pour gagner le paradis. Certains ont penché vers l'extrémité gauche en négligeant le corps entièrement, entièrement. Alors, comme chez les bouddhistes, chez les moines, etc., il reste peut-être sale pendant des semaines et des mois, et on se rappelle tous de ce qu'on rapporte du Moyen-Âge, où certains étaient fiers de garder les saletés pendant un an et deux ans. Ils étaient fiers, c'était une concurrence, qui était le plus sale. Ils croyaient que le fait de négliger le corps, oublier le corps, c'était une manière d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait de faire souffrir le corps est une manière d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci n'est pas la recommandation de l'islam. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam un jour a vu un sahab et un compagnon qui a promis à Allah azza wa jal de rester dans le soleil à jeûne alors qu'il faisait très très chaud, peut-être 40-50 degrés, il avait promis à Allah subhanahu wa ta'ala de rester en plein soleil, ne pas s'abriter d'un arbre et de rester à jeûne dans cet état. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à ses compagnons pourquoi il fait ça. Ils lui ont dit, car il avait promis de le faire. Le prophète a dit, inna allaha an ta'dibi hadha nafsahu la ghani. Allah n'a rien à faire de cette souffrance. Allah n'a pas besoin de cette souffrance. De voir son serviteur se souffrir comme ça. Souffrir. et faire souffrir son âme et son corps. L'islam t'ordonne de garder l'équilibre, mais de donner plus d'importance et d'utiliser ton corps pour le bien de l'âme. Car l'âme, comme on va le voir, inshallah, juste après, l'âme ne disparaît jamais après qu'Allah l'a créée, à la différence du corps. Le corps a bien sûr un début, il a une fin, c'est dans la tombe, il sera décomposé, sauf les cadavres, les corps des prophètes. Mais l'âme, comme dit Ibn al-Qayyim, Ibn Taymiyyah, d'autres savants, l'âme ne meurt jamais. L'âme ne meurt jamais après sa création. Allah dit dans le Coran al-Karim, « Kullu nafsin za'iqatul mawt » Chaque âme goûtera la mort. Goûtera la mort. C'est quoi la mort de l'âme? C'est sa séparation au moment de la mort, sa séparation du corps. C'est ça la mort de l'âme. Mais sinon, elle ne disparaît jamais après sa création. Après qu'il aura quitté le corps, elle ira soit dans un monde de délice ou bien dans un monde du châtiment. Mais elle ne disparaîtra jamais. Le troisième point pour lequel nous devons parler de la purification de l'âme, car cette voie qui est celle qui est la purification de l'âme, est une sorte de al-jihad. Al-jihad. Le terme al-jihad dans la langue arabe, tazkiyatun nafs est une sorte de jihad. C'est pas une chose facile. Parler de la purification de l'âme, ce n'est pas une chose facile. Tu ne peux pas aller faire un jihad ailleurs, combattre un ennemi extérieur, si tu n'as pas fait un jihad intérieur qui est jihad nafs. Celui qui n'a pas fait d'effort pour combattre les passions al-hawa, combattre l'avarice, qui est la maladie de l'âme, les maladies de l'âme telles que l'avarice, telles que al-hawa, la passion, telles que al-hasad, la jalousie, telles que al-riya, l'ostentation, ce sont des maladies du cœur. Eh bien, celui qui ne fait pas d'effort, qui ne fait pas le jihad, pour combattre ces maladies de l'âme, il ne peut pas, en général, il ne peut pas aller combattre un ennemi extérieur. Et ceci est la parole du grand savant Ibn al-Qayyim rahimahullah quand il a parlé des sortes de jihad. Des sortes de jihad, ou bien les degrés de jihad. Il en a cité quatre, maratib al-jihad, il en a cité quatre degrés de jihad. Il dit que le jihad est composé de quatre degrés. Il y a jihad, nafs, c'est l'effort que tu fais pour purifier ton âme. Jihad, al-shaytan, l'effort que tu fais pour combattre al-shaytan, qui t'ordonne bien sûr le mal. Jihad, al-munafiqin, le combat que tu fais pour lutter contre les hypocrites. Et enfin, jihad, al-kuffar, c'est combattre les mécréants. Il cite quatre degrés, quatre niveaux de jihad, et en premier lieu, il cite jihad al-nafs. Il dit, la parole d'Ibn al-Qayyim, il dit, celui qui n'a pas fait jihad al-nafs, le premier niveau, qui est la lutte contre les maladies de l'âme, il n'a pas purifié son âme, ne saura faire les autres jihad. Ne saura faire les autres jihad. Donc là, on voit que al-jihad de nafs est une sorte de jihad. Le fait de purifier l'âme, c'est ce qu'il y a de nafs, c'est une sorte de jihad. Ce n'est pas facile de se débarrasser de ces maladies. Quelqu'un qui avait une mauvaise habitude, quelqu'un qui avait la paresse, qui avait l'ostentation, qui avait l'avarice, c'est un caractère, un mauvais caractère qu'il avait. Son âme était, elle avait adopté un caractère qui est mauvais. Pour se débarrasser de ce caractère et purifier son âme, il doit faire un grand effort. Des frères, qu'on connaît peut-être, certains ont eu son expérience, des frères qui ont quitté la voie de Shaitan, et qui sont revenus à faire la prière. Et qui ne rataient jamais la prière à la mosquée, les cinq prières obligatoires à la mosquée. Après quelques temps, on ne les voit plus à la mosquée. Et deux ans, trois ans après, même des fois moins, on les retrouve de nouveau avec les mêmes personnes, la même fréquentation, et avec les mêmes mauvaises actions, si ce n'est pas pire. Car l'âme, quand elle a l'habitude de faire une chose, eh bien il est très difficile de s'en débarrasser. Et subhanallah, chacun peut-être a eu son expérience pour se débarrasser d'un mauvais caractère ou d'un mal qu'il avait l'habitude de faire, c'est pas facile. C'est très difficile. Mais avec l'aide d'Allah Azza wa Jal et avec la sincérité, tu arriveras.
tu arriveras. Et un savant, rahimahullah, disait dans un vers qui est très connu, وَالنَّفْسُ كَالطِّفْلِ إِنْ تُهْمِلْهُ شَبَّ عَلَى حُبِّ الرَّضَاعِ وَإِنْ تَصْطِمْهُ يَنْفَطِمِ. Il dit que, regarde l'image qu'il donne, il dit, l'âme ressemble à un bébé. L'âme ressemble à un bébé. Et c'est une comparaison qui est très très bien. Le bébé, s'il a l'habitude de prendre la tute, et on ne lui interdit pas, un jour, à un moment, on ne lui interdit pas, on l'oublie, on le néglige. Il part de la négligence. Celui qui néglige son âme ressemble à un père qui néglige son bébé. Eh bien, ce bébé, il aura peut-être 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, et gardera encore la tute. Pourquoi? Parce qu'on l'a négligé. La même chose l'âme, qui a l'habitude de faire des mauvaises choses. L'âme qui n'est pas purifiée, eh bien, pour se débarrasser des mauvaises choses, il lui faut un grand effort. C'est pourquoi que l'imam Ibn Qayyim a parlé du jihad al-nafs, si je sors du jihad. Et comment combattre ces maladies de l'âme? Comment les combattre? Eh bien, on peut les combattre par 4 choses, à 4 niveaux différents. Le premier niveau, c'est de lutter contre ces maladies de l'âme par la science, bil-ilm, par la science. La science, c'est un des meilleurs moyens pour combattre les maladies de l'âme et pour purifier l'âme. C'est ce qui est nefs. Pour purifier l'âme, il faut de la science. Quelqu'un qui est imam, il a la foi. Masha'Allah, une grande foi, très très forte peut-être. S'il lève ses bras pour demander à Allah Azza wa Jalla quelque chose, Allah il lui exauce sa demande sur le champ. Il peut commettre des bêtises très très graves s'il n'a pas de science. Il peut commettre des innovations très très graves s'il n'a pas de science. La science, c'est la lumière. قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. Celui qui a la science n'est pas équivalent à celui qui n'a pas la science. Bien sûr, je parle de la science de la religion. La science de la religion. On ne peut pas mettre au même pied d'égalité l'aveugle et celui qui voit, comme dit le Coran al-Karim, al-A'ma wal-Basir. Quelqu'un qui a la science de la religion, il a la lumière. Au milieu des ténèbres, l'obscurité, qui est l'ignorance, les péchés, toutes ces idoles de ce siècle, toutes ces innovations, tous ces péchés, ce sont des ténèbres. Eh bien, la science, c'est la lumière. C'est la lumière qui te montre le chemin droit, la voie droite du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est le premier niveau sur lequel il faut travailler. C'est la science, al-ilm. Al-ilm qabla al-qawli wal-amal, comme dit l'imam al-Bukhari, la science passe avant la parole et le geste, et l'action. D'abord la science. Si tu n'as pas la science, eh bien tu ne sauras pas purifier ton âme comme il faut. Car des fois, peut-être, sincèrement, tu veux purifier ton âme, tu veux te débarrasser d'une maladie de l'âme, mais tu vas tomber dans une autre maladie qui est beaucoup plus grave, beaucoup plus grave. Exemple, un exemple. Peut-être, je me rappelle d'un exemple de Cheikh Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, un jour où il a voulu faire ce qu'on appelle al-ruqya, al-ruqya. Exorciser quelqu'un, Ruqya, quelqu'un qui était possédé, il a voulu l'exorciser. Eh bien, le malade qui était possédé, c'est son shaitan qui a adressé la parole à Ibn Taymiyyah. Ibn Taymiyyah qui est un grand savant, éminent, un érudit dans la science de l'islam, et qui avait la foi, il avait la piété, وَلَا نُزَكِّهَ عَلَى اللَّهِ. Il dit à ce djinn, quitte ce corps, sors de là. Le djinn lui dit, je suis prêt à sortir pour plaire à toi, pour te faire plaisir. Je suis prêt à sortir pour te faire plaisir. Si nous étions à la place d'Ibn Taymiyyah, qu'est-ce que nous aurions fait? C'est bien, sors, alhamdulillah, tu sors, c'est bien. Ibn Taymiyyah qui avait la science, qui avait la lumière, lui dit non, non, non. Si tu veux sortir pour plaire à moi, ne sors pas, c'est pas la peine. Mais si c'est pour plaire à Allah Azza wa Jal, alors là tu sors. Si c'est pour Allah, sors. Pour moi, ne sors pas. Pourquoi? Là, il y a une chose, une maladie qui est très très grave. Une maladie très grave, c'est la maladie de l'ostentation riya. Car peut-être un jour, Ibn Taymiyyah, entre parenthèses, il dira un jour, regarde, même les djinns, même shayatin, les démons, ils ont peur de moi. Ils quittent les corps parce qu'ils ont peur de moi. Alors il aura peut-être cet orgueil, al-ghurur, l'ostentation riya. Alors là, il a su que ça, c'est une voie du shaitan vers l'ostentation, vers l'orgueil. C'est une maladie de l'âme, mais avec la science, par la science, il a su donner la réponse, la bonne réponse. C'est avec l'ilm, la science, qu'on peut purifier au premier niveau, la première étape, par l'ilm. On pourra purifier l'âme. Le deuxième niveau, c'est de travailler pour agir, pour l'action. Après l'ilm, ça vient l'amal. L'amal, le premier jihad, l'ilm, c'est de lutter contre les maladies de l'âme par la science, acquérir la science pour se débarrasser de ces maladies. Le deuxième point, le deuxième niveau, c'est de travailler pour mettre en application ce que tu as appris. Une science sans action, eh bien c'est une science qui est morte. C'est une science qui reviendra contre toi le jour de la résurrection. À quoi servira une science qui ne sert à rien? Une science que tu ne mets pas en application. Allah Azza wa Jal, il nous a enseigné la science du Coran et la science du Sunna, non pas pour les mettre dans les bibliothèques, dans les CD, dans les cassettes, mais pour les mettre en application. Al-amal. Après l'ilm, ça vient l'amal. C'est le deuxième niveau sur lequel il faut travailler. Car il ne suffit pas d'avoir la théorie, l'ilm, d'avoir des règles, d'avoir des chapitres et des centaines de textes. Ça ne suffit pas pour purifier l'âme. Ce n'est pas assez. La science, c'est la lumière qui te montre le chemin. Mais si tu as la lumière qui te dit que le chemin est par là, mais tu restes à ta place, tu ne bouges pas, tu ne fais pas d'efforts, tu ne cherches pas certains bagages utiles pour ton voyage, tu ne cherches pas certains outils utiles pour ton voyage, tu ne sais pas d'avancer pour quitter ce tunnel, et bien même si tu as la lumière, si tu restes à ta place, tu resteras dans le tunnel et dans les ténèbres. Après l'ilm, ça vient l'amal, l'application de ce que tu as appris. Tu apprends un hadith, un verset, mets-le en application. L'imam Ahmed disait, je préfère, chaque fois que j'entends un hadith rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, j'essaye de le mettre en application ne fût-ce qu'une fois dans ma vie. Walou marra. Il dit, quand j'entends parler d'une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on me rapporte un hadith, il y a des dizaines de milliers de hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, chaque fois que j'entends rapporter